Chapitre 2. En attirant à lui un veston luisant que Madame Lortal, machinalement dissimulait parmi d'autres, M. Tardoire extrayait de l'enveloppe le bouchon accusateur. À la rangée de gauche, le troisième bouton manquait. Il compara, corne grise identique. Alors, dépliant à terre le fac-similé de l'empreinte, il y appliqua une des larges bottes américaines à semelle débordante prise au hasard. Elle coïncidait exactement. M. Tardoire devint très pâle. « Je sais ce que je voulais savoir, madame. »« M'expliquerez-vous ?» Un pas lourd résonna sur l'escalier. Un instinct avertit M. Tardoire. « Oh, c'est bien simple, dit-il, je cherchais. Je crois avoir trouvé. » La porte, lentement, s'ouvrit. M. Lortal, la tête basse, congestionné, parut. Le procureur étendit le bras et, sans que le malheureux protestât, « Monsieur, je vous invite à me suivre. » Il se tourna vers Mme Lortal. « Faites-lui vos adieux, madame. Nous partirons ensemble. Il vaut mieux que l'arrestation ne soit pas publique. Le scandale sera moindre. » Madame Lortal poussa un grand cri. « Mais c'est fou, c'est impossible. Vous commettez une monstrueuse erreur. Il a passé toute la nuit avec moi. » Mais M. Tardoire se bornait à répondre. « Oh, des témoins prouveront que, si erreur il y a, ce n'est point du côté de la justice. Au revoir, madame, je vous plains. » Il se tourna vers Lortal. « Suivez-moi, monsieur. » Muet, avec une raideur d'automate et le corps seul continuant d'agir, dans la totale abolition de sa volonté, l'assassin, sans relever le front, sans regarder sa femme, obéit. Ce n'était plus qu'une loque humaine. Madame Lortal s'était effondrée en sanglots sur son prie-Dieu. Elle était toute souffrance, ne pensait plus. Quant à M. Tardoire, il songeait, avec la satisfaction du devoir accompli, tout en surveillant du coin de l'œil son compagnon et en saluant, çà et là, les yeux stupéfaits sur son passage, « L'affaire ne sera pas classée. » Dans un tunnel d'ombre, au coup de sonnette du docteur Desfeuilles, le petit Judas de cuivre pratiqué dans la porte de la rue, après un long moment, s'ouvrit. Des yeux inquiets parurent. « C'est vous, docteur ?» La porte s'entrebâilla. « Je vous avais aperçu de ma chambre. » Madame Lortal s'effaça. Elle était en robe de deuil, singulièrement maigrie. « Entrez, entrez, je vous attendais. » Elle passa devant la porte du salon où avait eu lieu leur premier entretien. « Oh, pas là !» dit-elle vivement. Le jour néfaste évoqué surgissait devant eux. Le conseil du docteur, la séparation. Trop tard. La séparation, à présent, était faite, autrement qu'il n'avait pensé. Dans ma chambre, nous serons plus tranquilles. Ils longèrent les portes closes, l'escalier craqua sous leurs pas, comme dans une maison inhabitée. « Est-ce triste ?» soupira-t-elle. « Ces pièces vides. » Des enfants, depuis 2 mois, étaient partis. Dès le lendemain de la visite de M. Tardoire, Madame Lortal les avait envoyés avec Mariette chez la tante Frasie, une vieille fille originale qui vivait en petite rentière, retirée à Nemours, dans une de ses propriétés ombreuses qui bordent le Loing. Ils échapperaient ainsi à tous les douloureux contre-coups, inévitables autrement, après la mortelle secousse. Elle-même évitait les questions périlleuses, et ce déchirement de voir les petites mines étonnées puis soucieuses, leur puéril chagrin aggravait son supplice. Ils seraient assez tôt, les malheureux. Car plus tard, oh, le plus tard possible, il faudrait bien qu'ils apprissent. Ce rejaillissement sur les petits innocents de ce sang et de cette boue Cette souillure fatale dont, avec les préjugés de sa classe, Madame Lortal craignait non sans raison qu'ils fussent tachés. Voilà ce qui, aux rares minutes où le drame qu'il vivait quotidiennement lui laissait quelque répit, la tourmentait par-dessus tout. Ainsi n'échappait-elle à une douleur que pour retomber dans une autre. Elle ne sortait du cauchemar de son angoisse et de sa lutte que pour entrer dans un tunnel d'ombre que nulle lueur d'espoir n'éclairait. Pourtant, si fort est le besoin d'espérer, si profond l'instinct de la vie, que même en plein écrasement, parfois, elle se redressait, cherchait désespérément une issue, le moyen d'échapper. La veille, en rentrant du palais de justice, elle avait eu un de ses éclairs. La partie lui semblait compromise, perdue. C'était la condamnation inévitable. En une révulsion de tout l'être, elle imaginait déjà, dans l'eau blafarde, sur quelque place déserte, la machine sinistre qu'on échafaudait, les fantassins rangés, le cortège débouchant de la prison. Georges ligoté, le triangle luisant du couperet qui s'abat. Non, tout plutôt que cela. Pour le nom, pour les petits. Elle rêvait songé au docteur. Elle avait une idée. Lui seul pouvait peut-être les tirer de là. Lui seul, s'il voulait. Et tout de suite, fébrilement, elle avait écrit à M. Desfeuilles. Soigneusement, elle ferma la porte, lui avança un des deux fauteuils près de la cheminée. « Nous sommes seuls pour une heure. J'ai envoyé la cuisinière en ville. Personne ne nous écoute. Je peux parler à cœur ouvert. C'est horrible, docteur. Si vous saviez cette sensation d'être épié, guetté par tous, de vivre seul comme une pestiférée au milieu d'un grand cercle vide. Seul, non, car il n'y a pas un de mes regards, un de mes soupirs, une de mes pensées qui ne soit la proie de cette affreuse ville suspendue autour de moi. Et pourtant, il faut que je sois là, que je le défende, moi, contre tous. Bon, je suis injuste, pardon. Je sais que vous le défendez aussi. Vous dites partout que vous ne croyez pas à sa culpabilité. Vous et moi, madame, sommes en effet les seuls qui, sachant ce que nous savons, ont le droit de tenir ce langage. On peut être l'auteur d'un crime, mais n'être pourtant point coupable de ce crime. Voilà ce qui me permet, ajouta M. Desfeuilles en regardant Mme Lortal, de ses bons yeux compatissants, de concilier l'amitié et le devoir. Mme Lortal baissa la tête sans oser protester. Elle n'était pas devant le juge d'instruction. Elle avait eu beau, devant ce dernier et devant M. Tardoy, se cramponner à son système de défense, l'alibi. Son mari et elle s'étaient endormis, réveillés dans le même lit. Elle avait eu beau nier la validité des témoignages de Lardemès et Dufrénieux, nier les preuves retenues par l'accusation. Similitude de l'empreinte laissée dans la plate-bande et de la chaussure révélatrice, similitude du bouton arraché. Devant le docteur, dépositaire comme elle du triste secret, elle ne se sentait plus ni le courage ni la foi de mentir, comme elle avait généreusement essayé jusqu'ici, et contre les faits, et contre elle-même. Aussi bien, tombée depuis l'involontaire soulagement de son instinct dans une torpeur où entrait autant de conscience horreur que d'inconsciente hébétude, Georges se raccrochait-il à une dénégation pure et simple. « Je me suis endormi, réveillé chez moi. Je suis victime d'une épouvantable erreur, des machinations de mes voisins. » L'impression générale, et Mme Lortal se rendait si bien compte du danger qu'elle appelait le docteur au secours, le sentiment public continuait et concluait au meurtre passionnel et au châtiment du meurtrier. Elle tenta une diversion bien inutile, mais qui répondait à la ruse native, non moins que précaire, tenace, mirage de l'espérance. Et s'il était innocent, pourtant ? Monsieur Desfeuilles la contempla silencieusement. Une tristesse imprégnait sa bonne face camuse. Il dit enfin, « Pouvez-vous douter plus que moi que s'il est en effet innocent au sens suprême de la science, il ne soit pourtant le vrai, le seul coupable ? Son étrange mutisme vis-à-vis de vous-même, au lendemain de l'assassinat, ne l'accuse-t-il pas plus clairement que les délégations les plus énergiques, ou que l'aveu même ?» Madame Lortal baissa la tête. « À quoi bon se cabrer plus longtemps devant le fait, mentir devant le seul homme qui sut avec elle toute la vérité ?» La vision de l'échafaud. Elle gémit. « Ah, docteur, c'est trop certain. Ils le condamneront. Ils le tueront. » Monsieur Desfeuilles, avec une impuissance résignée, haussa les épaules. « Ah oui, la peine de mort n'est pas abolie encore. » Madame Lortal s'écria de toute l'ardeur de son affection douloureuse, de toute l'indignation de sa douleur féminine. « Mais c'est affreux. Qu'est-ce que cela prouve d'abord, ce taillour barbare ? Le sang n'efface pas le sang. L'horrible tâche ne fait que grandir, que rejaillir, désorée autour d'elle. Oh non, non, pas l'échafaud, c'est injuste et hideux. C'est ainsi, dit tristement M. Desfeuilles. Et cette soi-disant sanction de la justice est en effet d'autant moins digne d'une nation civilisée que l'exemple ne sert de rien. Il ajouta, comme s'il se parlait à lui-même, « Les exécutions capitales n'ont jamais influé en quoi que ce soit sur la criminalité. » Madame Lortal n'écoutait plus. Elle était hypnotisée par la vision finale. Les bois dressant leurs bras dans l'ombre blafarde, le couperet qui s'abat, la tête qui tombe. Elle frissonna toute. « Non, non, docteur, non, il faut le tirer de là. » « Puisque vous dites vous-même qu'on peut être à la fois coupable et innocent. »« Il est certain, dit M. Desfeuilles, qu'une exécution ne serait plus ici l'acte de représailles sauvage qu'elle est en soi. Elle deviendrait un autre assassinat, une violence inexplicable, inepte. »« Et vous voyez bien, balbutia Mme Lortal avec un visage illuminé, vous le sauverez. » « Oui, j'ai pensé à cela. Vous seul, qui avez été mis au courant par mon pauvre Georges lui-même avant que... Enfin, vous qui, par votre profession, êtes investi d'une autorité particulière, vous nous aiderez. Il n'y a qu'à aller trouver le juge, à lui dire ce que vous savez, oui, toute la vérité. Si épouvantable qu'elle soit, quelque tristesse qui doive en retomber sur nous, elle vaut encore mieux que l'autre horreur. Il vaut mieux pour mes pauvres enfants que leur père ne soit pas responsable. C'est l'acquittement, le non-lieu, qui sait. Le silence. Oh, je préfère la maison de fous. L'internement vite et qu'on ne parle plus, qu'on oublie. Je préfère toutes ces choses abominables, la guillotine, le sang sur nous, la tâche qui s'étend, qui s'étend. Entre deux devoirs. Le docteur Desfeuilles s'était levé. Un combat, visiblement, se livrait en lui. Sa lèvre inférieure tremblait. « Ce que vous me demandez est impossible, madame, impossible. Toute démarche auprès du juge, toute révélation m'est interdite. Je suis lié. » Madame Lortal le contemplait stupéfaite. « Comment, docteur, je ne comprends pas ?» Il dit gravement. « Le secret professionnel, madame. »« Le secret professionnel. Le secret professionnel. » Elle répétait ces mots machinalement. Elle éclata soudain avec véhémence. « Mais en quoi cela peut-il vous empêcher de faire votre devoir d'honnête homme, d'arracher mon mari ?» Irresponsable, innocent, vous me l'avez dit vous-même tout à l'heure, à une peine que vous qualifiez d'inexplicable, d'inepte. Comment, vous, qui trouvez déjà révoltante cette idée de rendre mort pour mort, ces représailles illégales, même quand elles semblent justes, vous favoriserez par votre silence, par votre complicité, une ignominie, une iniquité? Vous vous mettrez avec toute la société contre un pauvre être qui, au fond, n'est pas coupable, contre une victime? Non, docteur, je ne le crois pas. Et je vous répète, madame, que le secret professionnel. Non, docteur, vous ne serez pas dupe d'un mot. De grands mots qui ne peuvent pas vous forcer, vous conduire de la sorte. Ou alors, qui serait une bien vilaine chose. Est-ce que le secret professionnel peut vous obliger à une mauvaise action, à une lâcheté? Vous taire, c'est impossible. Voyons en conscience. Est-ce qu'il n'y a pas toujours des devoirs supérieurs à d'autres? Est-ce que votre devoir supérieur ici n'est pas de parler? Est-ce qu'au-dessus du devoir professionnel, il n'y a pas le devoir tout court? Elle releva ses beaux cheveux châtains dont les mèches battaient ses yeux. Elle était touchante ainsi, les yeux brillants, les pommettes rouges de fièvre. Monsieur Desfeuilles promena vivement à plusieurs reprises sa main osseuse sur son crâne. La réflexion fronçait ses sourcils. Je comprends votre exaltation, ma chère enfant, et je respecte le motif qui vous la dicte. Permettez-moi de vous faire pourtant observer. Mais d'abord est-il besoin de vous rappeler quelle sympathie profonde votre malheur m'inspire, avec quel dévouement je vous suis attaché, à vous, à ce pauvre petit André, à cette gentille petite Georgette, qui sont tout votre portrait. J'ai beaucoup aimé vos parents, je vous connais depuis toujours, quand vous étiez haute comme ça. Eh bien, ne doutez pas de ma sincérité, de mon ardent désir de faire pour vous tout ce que je pourrais. Mais, encore une fois, non, je ne puis faire ce que vous me demandez. Non, je ne puis trahir le secret professionnel. Et ce serait le trahir que d'aller dire au juge. Oh, voici une confidence dont j'ai reçu le dépôt sacré, l'aveu d'un malade au médecin. Cela que la loi m'interdit de révéler, qui ne m'appartient pas, je vous le livre. Mais c'est une loi monstrueuse. Hélas, non, ma chère enfant. La loi, en effet, n'est pas faite pour un, elle est faite pour tous. Il ne peut y avoir en ceci de règles individuelles, de questions d'espèce. Il faut, dans l'intérêt général, un statut général. La loi ne peut prévoir des cas où elle cesserait d'être la loi. Ce serait la porte ouverte à toutes les fantaisies, à tous les caprices, à tous les fléchissements de la conscience. Songez au nombre effrayant de secrets, et de secrets souvent terribles, où sont attachés la vie, le repos, l'honneur des familles. Et songez que nous sommes presque toujours, en même temps que les médecins des corps, les médecins des âmes. C'est à notre profession, à notre discrétion, au confessionnal de notre science et de notre silence, que sont confiés journellement tous ces secrets dont la divulgation doit être a priori. Et de façon absolue, interdite, sans cela que de danger. Songez-y, si nous étions libres de nous ériger nous-mêmes en juges de l'opportunité de parler ou de nous taire, toute la grandeur, toute la haute impartialité de notre profession, de notre mission serait compromise. Plus de confiance possible. Comment voulez-vous que le malade se réfugie auprès de nous, nous ouvre les dessous de son être pour que nous le soignions, le guérissons en connaissance de cause? Il aura peur. Il se dira: Oh, cet homme n'est pas sûr, mieux vaut me taire. Et en effet, si intègre, si intelligent, si conscient de son noble rose que l'on veuille nous supposer en principe, comment ne pas redouter une complaisance, une indiscrétion? Il y a des cas, je vous l'accorde, et celui-ci en est un lamentable exemple, où c'est au contraire le silence qui est nuisible. Dans combien d'autres cas, et dans la plupart, pour être juste, n'est-ce pas au contraire la parole dont les conséquences pourraient être d'une répercussion tragique, de conséquences incalculables? Ah, vous avez peut-être raison, docteur. Oui, j'admets. Mais dans un cas comme celui-ci, est-ce que votre bonté, est-ce que votre pitié ne peuvent pas passer par-dessus la raison? Ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. Prenez sur vous, laissez-vous fléchir. Allez éclairer, monsieur Tardoire. Elle insistait, suspendue à cet espoir qui abolissait tout le reste, coutumes vaines, lois qu'on admet, jusqu'à ce qu'on en ait éprouvé soi-même les imperfections et la dureté. Même monsieur Desfeuilles dit nettement: Impossible, madame. Vous redoublez mes regrets sans ébranler ma conviction. Ah! S'exclama madame Lortal. Mais Georges lui-même vous eût relevé de votre serment, vous priverait de parler. En êtes-vous sûr? Et quelle nécessité de révéler dès maintenant ce qui est enseveli entre nous? Nous pourrions, en effet, au cas où vous y tiendriez absolument, provoquer une expertise médico-légale. Ce que le secret professionnel m'empêche de rendre moi-même publiable, nous pouvons, si vous l'exigez, le dresser comme une excuse contre le meurtre et l'échafaud où s'expie le meurtre. Il vous suffirait de demander l'examen cérébral, la nomination de quelques médecins légistes. Ainsi arriveriez-vous au même but par un chemin licite. Mais l'avantage, oh, sincèrement, je ne le vois pas. Vous appesantissez dès aujourd'hui sur la tête de vos enfants ce fardeau sous lequel leur vie risque de ployer. L'héritage d'un fou peut être aussi lourd à porter que celui d'un assassin. Ne dévoilez pas vous-même dès maintenant ce que vous parviendrez peut-être à cacher. Cette tare dont André, dont Georgette, vous en voudront peut-être un jour de les avoir marqués au front, sans nécessité absolue. Vous pensez donc. Je pense, conclut le docteur Desfeuilles, que la tactique que vous avez suivie est la seule bonne, qu'il faut y persévérer, votre mari et vous. N'y a-t-il qu'une chance, une seule d'acquittement? Réservez-en la possibilité à vos enfants, à monsieur Lortal, à vous-même. L'affaire n'est pas si claire, elle conserve des côtés un si peu élucidés que les juges hésiteront peut-être. Nous ne savons s'il y a là de quoi former la conviction d'un jury. Il faut laisser planer le doute. L'acquittement peut en être. Aller au-devant de l'expertise médico-légale, c'est avouer. C'est aller, quelle que soit la décision du tribunal, mort ou internement, au-devant du déshonneur. Attendez. Ah, dit madame Lortal, profondément remuée, je ne voyais pas où vous vouliez en venir. Que vous êtes bon, merci, mais elle s'interrompit une seconde, puis un élan de prière ardemment l'emporta. Mais si l'issue n'était pas celle que vous faites luire, si le malheur voulait que le jury. Ah, docteur, pourrions-nous encore intervenir? Pourriez-vous à ce moment? Monsieur Desfeuilles envisagea le trouble à venir, et se refusant à aggraver si longtemps à l'avance ce pénible débat de conscience, un des plus ardus auquel un brave homme puisse être en butte, il déclara affectueusement: Ne préjugeons rien. À chaque jour, sa peine. L'engrenage du destin. Un aigre soleil de printemps jetait sur les rues d'Orléans de brefs et pâles rayonnements zébrés d'averse. Le docteur Desfeuilles releva frileusement le col de son pardessus. Il marchait avec une lenteur préoccupée, tête basse. Il avait la mauvaise mine d'un homme qui depuis des nuits dort peu et dont la conscience, tout le jour, n'est pas davantage en repos. Ce samedi-là, comme tous les matins de la semaine, il se rendait pour la dernière fois sans doute au palais de justice. Le procès de M. Lortal, depuis le lundi, se déroulait devant la cour d'assises. Et l'on attendait le verdict avant le soir. Oh, une triste semaine! M. Desfeuilles ne se souvenait guère d'en avoir traversé le pire dans sa vie. Certes, il avait, comme tout homme, touché le fond de la douleur, lorsqu'il avait perdu jeune les êtres chers qu'il devait d'être. Mais, vieux garçon, n'ayant de famille que celle qui s'était composée, au choix de l'amitié, il n'avait eu jusqu'ici à souffrir que de la douleur ou des tracas des autres. Jamais les hasards de sa calme existence ou les exigences de son métier ne l'avaient encore mis face à face avec une situation comme celle où il se trouvait depuis que l'aveu de M. Lortal avant le crime et la prière de cette malheureuse femme depuis l'avaient fait, quoiqu'à l'arrière-plan, un des protagonistes de ce sombre drame familial. Tels étaient l'enchevêtrement des circonstances, l'engrenage du destin. Il se trouvait aujourd'hui l'arbitre suprême de la vie d'un homme et de l'honneur d'une famille. Devant les robes rouges. L'homme, certes, il ne le connaissait guère, n'avait pour lui que cette nuance de pitié qu'au fond des âmes délicates éveille le spectacle immérité de la misère et de la déchéance. Ce n'était pas M. Lortal à qui il s'intéressait. C'était un de ses frères inférieurs, déchet de la société, soit, mais aussi victime. Ce n'était pas la vie seule de M. Lortal qu'un sourd mais impérieux sentiment d'équité l'incitait à défendre, dans la conviction où il était que la peine de mort est de toutes les sanctions de justice celle qui s'explique le moins dans une société civilisée. Mais c'était la vie de tous les coupables à demi innocents, de tous les responsables qu'il fallait essayer de guérir et non de tuer. Le docteur Desfeuilles pensait que les sociétés qui se disent civilisées ont pour mission de prévoir plus que de punir. Mais de quel droit frapper un être comme coupable alors que, du crime commis le plus souvent, c'est la collectivité intelligente et responsable qui, par son inertie, son égoïsme, son imprévoyance, est cause. Le rôle de ceux qui savent n'est pas de retourner le couteau contre ceux qui s'en sont servis, parce qu'ils ne savaient pas. Même en admettant que le meurtrier sût, n'était-ce pas se ravaler à la même conception de brute? Le seul devoir n'était-il pas de mettre cet être dans l'impossibilité de nuire, se préserver, avant, par une vigilance pitoyable aux maux qui empoisonnent la race, après, en isolant, en soignant l'individu contaminé. Cette conception du devoir social, du rôle de la société, médecin par excellence, inclinait le docteur à se soucier d'autant plus du lendemain funèbre qui attendait la famille Lortal. Aux yeux de M. Desfeuilles, du jugement qui atteindrait le père, dépendait surtout l'avenir de la malheureuse femme et des enfants, l'honneur de cette petite famille si touchante, pour lui surtout qui avait connu aimé les parents, pour lui qui avait apprécié la tendresse et l'abnégation de Madame Lortal. On conçoit donc avec quelle impatience angoissée le docteur vivait depuis l'ouverture du procès, suspendu à l'heure prochaine du verdict. L'acquittement résultait tout. Mais au contraire, si comme il était à craindre, c'était la condamnation à mort que décidait le jury, lui, docteur, en son âme et conscience, que devait-il faire? Le tribunal disparaissait. Lui seul entrait en scène, complice d'un meurtre s'il laissait s'accomplir l'arrêt de la cour. Arbitre suprême de la vie d'un homme, de la justice des hommes, si au contraire, emporté par l'élan de son cœur, il pensait un seul mot, disant ce qu'il savait. Mais à quel prix? Il violait, en parlant, le secret professionnel. Il sauvait une tête, mais il donnait en même temps un exemple funeste. Et que de telles leçons fussent suivies, c'en était fait de la garantie d'une profession, de cette confiance sacrée que doit inspirer le médecin pour que le malade se confesse, guérisse. Débat d'âme poignant que M. Desfeuilles traînait au fond de lui-même depuis le soir où il avait refusé de répondre à l'appel de Mme Lortal. Problème de conscience dont il voyait approcher la solution avec terreur, sans savoir de quel côté les événements l'entraîneraient. Aussi souhaitait-il, avec une âpre espérance, que devant les obscurités de la cause, le jury, en acquittant Lortal, tranchât, décida pour lui. Mais plus il se remémorait les émouvantes journées qui venaient de s'écouler, moins il trouvait de raison d'espérer. Contre la pauvre Madame Lortal, contre lui-même par conséquent, qui la soutenait de son affection et de ses conseils, le docteur sentait se dresser, peser, toute l'hostilité et les préventions d'une ville. Montargis, avec une indignation et une violence qui n'avaient fait que croître depuis le jour où la nouvelle du crime avait bouleversé cette population paisible, Montargis n'était qu'un cri et qu'une âme. Toute la société en petit, soupçonneuse, jalouse et fermée, une société aux vertus indignées ou feintes, aux mœurs étroites, aux lois inflexibles, s'était levée, et par la voix de l'acte d'accusation, par la voix des témoins, réclamait expiation. Depuis la nuit fatale où la femme de chambre de Madame de la Feuille l'avait entraînée sur le lieu du crime, M. Tardoire gardait au cœur l'inoubliable vision. Avec une conscience à la rigueur de laquelle ajoutait le sentiment qu'il voulait à la morte et l'unanimité de l'opinion publique, il avait mis tout son talent à diriger l'enquête. L'acte d'accusation était rédigé avec une vigueur, une netteté, une hauteur de vue si impartiale et si digne que la justice, sans nul doute, triompherait. Quant aux nombreux témoins, aux témoins à charge, bien entendu, le docteur réentendait avec un serrement de cœur leurs dépositions acharnées et sincères. Peu d'hommes contrôlent leurs opinions. La plupart n'acceptent leur jugement tout fait au gré de leur sympathie ou de leurs inimitiés, de leur paresse, de leurs ignorances. Il s'était trouvé quantité de ces boutons de panurge pour faire troupeau, grossir le nombre des observations après coup, des imputations tendancieuses, des accusations nettes. L'inoffensif passé de M. Lortal était criblé à jour, déformé, transposé. On ne l'avait pas vu une, mais 20 fois venir chez Madame de La Faye à des heures indues et s'en échapper de même. Une scène où, traitant d'affaires d'intérêt, il s'était laissé aller à quelques gestes violents, devenait dans la bouche d'un domestique un drame passionnel, préludant à l'autre. Et les plaidoiries, la version adoptée par l'avocat de la partie civile, c'était des cousins éloignés, côté La Faye, qui espéraient hériter un jour de la veuve, la faire revenir sur un testament signé en faveur de sa sœur. M. Lortal, selon eux, avait tenté de séduire Madame de La Faye pour la dominer mieux, être plus certain de conserver le lait. Il s'était heurté à une résistance imprévue, avait vu rouge, la femme et l'argent lui échappaient, alors, comme un furieux, comme un lâche, il avait tué. L'hypothèse à laquelle le parquet eut sans doute songé, s'il eût été de sang-froid, la possibilité d'une démence Nul n'en avait soufflé mot encore. L'avocat de Madame Lortol, n'ayant point reçu d'instruction dans ce sens, ainsi qu'il avait été convenu. La plaidoirie flottant un peu dans le vide, Maître Jacquen avait d'autres affaires en train, plus lucratives et documentées, les dépositions des témoins à décharge, forcément vagues, avaient accru dans l'âme du docteur l'impression de malaise et d'inquiétude contre laquelle, depuis la veille, il se défendait mal. Aussi, dans la soirée, avait-il jugé nécessaire, après avoir référé à Madame Lartal, d'avertir l'avocat. Peut-être se produirait-il à la dernière séance un incident qui l'obligerait Maître Jacquen à prendre des conclusions dans un sens qu'il serait le premier à saisir, qu'il voulut bien suivre avec attention le réquisitoire de l'avocat général, l'intervention possible d'un tiers et agir en conséquence. Le geste final de l'accusateur public. M. Desfeuilles était arrivé sans s'en douter jusqu'au perron du palais de justice. Des groupes de curieux s'y pressaient, attendant l'ouverture des portes. Le docteur pénétra dans le majestueux bâtiment. Au fond de la salle des pas perdus, une femme en deuil causait sur un banc avec un avocat. C'était Maître Jacquen et Madame Lortal. Il les aborda, répondit par un silence gêné, des yeux qui se détournaient à la maître supplication du regard dont la mère le questionnait et l'implorait. Il eut un soulagement quand il fut assis derrière elle au banc de la défense et que l'huissier eut annoncé « La cour !» Précédé du président en robe rouge, les juges entraient solennellement. Les jurés bavardaient à leur banc. L'accusé, affaissé, se souleva entre les deux gendarmes. M. Lortal faisait peine. Le teint de brique avait blêmi dans la barbe rouge, poussée en broussailles. Le front ridé, les yeux où des boursouflures gonflaient leurs poches. Le regard terne, fuyant ou absorbé, impressionnait. Les bras pendaient comme ceux d'un pantin. Lourde machine dont le ressort semblait cassé. Le corps massif était bien là, l'âme, oh, absente. Quand le silence fut fait, le président souleva sa toque. « La parole est à monsieur l'avocat général !» À l'extrémité droite de la cour rangée en demi-cercle, le défenseur public, après avoir manié les feuillets de son discours et légèrement toussé, se leva et salua. Il parlait. De profil, les mains appuyées à son pupitre, il semblait à M. Desfeuilles, par le balancement régulier de son corps penché en avant, par la houppe qui s'échevelait sur sa tête dénudée, par la voix nasillarde qui sortait fluette d'une large bouche surplombée d'un long nez, l'image exacte d'un perroquet. En même temps, le docteur contemplait devant lui la nuque blanche de Madame Lortal, ses épaules très saillantes sous son voile noir. Et il évoqua, tandis que se donnait cours le jet de l'éloquence officielle, les pauvres petits êtres insoucieux sur qui pesait la menace terrible et qui, à cette même heure, jouaient peut-être Candide dans les jardins ombreux de la tante Phrasie. La voix de l'avocat général retentissait avec cette sincérité d'indignation qu'il retrouvait toujours neuve à chaque exercice de sa fonction. C'était au demeurant la robe dépouillée, un homme aimable, mais qui endossait régulièrement une âme inflexible, en même temps que sa robe. Tout lui apparaissait alors sous un angle spécial. Il était la société offensée. Il réclamait justice, c'est-à-dire vengeance. Il incarnait le châtiment. Avec une logique persuasive, une mathématique clarté, il posait, déduisait le problème. On ne pouvait raisonner plus juste sur des données fausses. Une fois le système admis, Tout découlait avec une telle rigueur d'évidence, une telle précision, que le crime irrésistiblement s'avérait. Nul autre que M. Lortal n'avait pu le commettre. Cette conclusion s'imposait. Et c'était inattaquable par la vraisemblance du détail, par la solidité de l'ensemble. Le docteur, en frémissant, embrassa d'un regard les têtes des jurés, inclinées, attentives. Maître Lortal, Madame Lortal, désemparée, et l'avocat adverse, souriant. Maître Jacquin, maussade. La voix, à mesure échauffée, résonnait dans un grand silence, prenait à partie avec rudesse M. Lortal, posté entre les deux gendarmes sévères. « Oh, il est perdu !» se dit M. Desfeuilles. Le défenseur public, agitant ses longues manches, touchait à la péroraison. Dans un pathétique appel tourné vers les 12 jurés suspendus à ses lèvres, il évoqua la nécessité du cruel devoir que la société attendait d'eux. Ils penseraient à la sécurité de leur famille, à l'horreur du crime, à la moralité de l'exemple. Ils penseraient qu'ils se protégeaient eux-mêmes, qu'ils protégeaient l'avenir de leurs enfants en ne permettant pas que de pareils faits demeurassent impunis. Être clément, c'était faillir aux règles imprescriptibles sans lesquelles il n'y a plus d'organisation, plus de civilisation possible. C'était trahir les éternels principes sur lesquels toute société qui veut vivre se fonde. C'était courir à l'anarchie. Et cela, j'en suis sûr, messieurs, vous ne le ferez pas. Il faucha l'air d'un geste coupant, et je fus si net que la plupart crurent voir une tête tomber. Les ténèbres se dissipent. Un lourd instant pesa quelques secondes solennelles, durant lesquelles le docteur vécut des heures d'angoisse. Tout s'inscrivait en lui, inoubliablement, l'air de conviction des jurés. Le sanglot étouffé de Madame Lortal, dont le dos s'effondrait. Le bref salut de Toc, dont le président, majestueux dans sa robe rouge, soulignait la fin du réquisitoire. Il perçut l'imminente suspension d'audience avant la plaidoirie de Maître Jacquin et l'inutilité totale de ce suprême effort. Le procès était clos, M. Lortal condamné. Alors la tourmente d'âme, où depuis le commencement de la séance il flottait dans un insupportable déchirement de tout l'être, tenaillé entre ses devoirs opposés et complexes, l'ouragan intérieur soudainement tombèrent. Toute réflexion cessa. Il était debout, mu par un involontaire et tout-puissant élan. « Je vous prie d'excuser l'irrégularité de ma démarche, monsieur le président, » dit-il d'une voix si nette qu'il n'en reconnaissait pas lui-même l'habituel timbre. S'écoutait surpris, comme si un autre que lui, un nouveau monsieur Desfeuilles, plus conscient, plus calme, parlait en lui. « Qui êtes-vous? Que demandez-vous ? » s'enquit avec une autorité brusque le président. Précédant pourtant que ce vieux monsieur distingué, aussi sûr de soi, n'était pas un interrupteur ordinaire. « Je suis le docteur Desfeuilles de Montargis, et je croirais à cette heure suprême manquer à mon devoir d'homme si je ne me déliais devant vous de mon devoir de médecin. Celui que vous allez condamner, monsieur le président, messieurs les jurés, n'est pas un criminel responsable. C'est un dément. Je dois à ma profession d'être maître de ce secret que j'eusse voulu ensevelir avec moi. Mais je ne veux pas m'associer par mon silence au second crime qui se prépare. Je préfère violer le secret professionnel que me rougir les mains du sang d'un innocent. » Un murmure de stupéfaction, des bravos, des huées éclataient au fond de la salle, en même temps que se croisaient de toutes parts des interjections diverses. « Mais il est trop tard! Que n'avez-vous provoqué une expertise médico-légale? prononçait l'avocat de la partie civile. « Mais nous escotions l'acquittement au bénéfice du doute, » rétorquait M. Lacaine. « Mais c'est intolérable !» s'exclama le président. Une voix d'inconnu jeta. « Le docteur a raison !» Tandis que, tourné vers l'avocat général, un des juges déclarait « C'est un délit prévu par la loi !» Droit dans sa robe rouge, le président gesticulait en frappant sur son pupitre et en criant « Silence !» Un calme relatif se fit. Il en profita pour prononcer « Monsieur l'avocat général, je vous invite à prendre contre le docteur Desfeuilles les réquisitions ordonnées par la loi pour violation du secret professionnel. » Il ajouta devant le redoublement du tumulte « Et si le bruit continue, je fais évacuer la salle !» Le docteur Desfeuilles, paisiblement, s'était rassis. Il souriait avec calme, répondait d'une pression affectueuse à la longue étreinte dont Madame Lortat, en pleurant, lui serrait avec fièvre les mains. Il avait 100 kilos de moins sur la poitrine, et tandis que de sa désagréable voix de nez, le défenseur public réclamait contre lui les sanctions obligatoires. « Et après, on me mettra pas en prison, n'est-ce pas ?» Tandis que M. Jacquin déposait sur le champ des conclusions tendant au renvoi du verdict jusqu'à ce qu'une commission de médecins légistes eût procédé à l'examen cérébral de l'accusé, conclusions sur lesquelles la Cour allait délibérer, mais dont bien évidemment elle allait être forcée de tenir compte, le docteur songeait avec une exaltation joyeuse à l'acte qu'il venait d'accomplir. Il avait la conscience en repos, l'âme allégée. Et sans se douter qu'en cette intervention inattendue et si simple tenait toute une révolution morale, il respira gaiement comme s'il s'éveillait dans la fraîcheur d'une aube au sortir d'insondables, de monstrueuses ténèbres. Victor Marguerite. Fin.